Bonjour à tous et merci beaucoup à la BPI, à l'Association des bibliothécaires de Seine-Saint-Denis et au Musée national de l'histoire de l'immigration de me permettre de parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'accueil des migrants en bibliothèque, un sujet qui m'a accompagnée pendant une année durant ma formation à l'ENSIB en 2014. Avant de commencer ma présentation, je voudrais vous lire une citation du manifeste sur la bibliothèque multiculturelle de l'IFLA de 2006. Une attention spéciale doit être accordée aux groupes qui sont souvent marginalisés dans les sociétés diversifiées au plan culturel, les minorités, les demandeurs d'asile et les réfugiés, les résidents ayant un permis de résidence temporaire, les travailleurs migrants et les communautés autochtones. Donc, on l'a vu au cours de toutes ces interventions passionnantes lors de cette journée, il va de soi que les bibliothèques de lecture publique, ouvertes à tous les publics, faisant la promotion de l'accès à la formation au plus grand nombre, faisant la promotion de la culture, lieu de rencontre, lieu d'échange et lieu œuvrant pour l'intégration civique de tous les citoyens et de tous les non-citoyens et sont forcément, en toute logique, pleinement concernés par la question de l'accueil des migrants. Je ne reviens pas sur la définition d'immigrés et de migrants puisque nous l'avons déjà vu ce matin. Donc, lors de mon mémoire ENSIB, ce que je voulais faire, c'est faire un état des lieux afin de voir comment est-ce qu'aujourd'hui en France, les bibliothèques de lecture publique accueillaient le public migrant. Donc, pour ce faire, j'ai envoyé deux questionnaires à toutes les bibliothèques municipales situées dans des communes de plus de 30 000 habitants et également à toutes les bibliothèques départementales de près. J'ai également mené des entretiens auprès de plusieurs bibliothécaires développant des initiatives assez innovantes. Et le deuxième axe de mon mémoire, c'était de me demander, dans une démarche plus prospective, comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'accueil que l'on fait aujourd'hui à l'accueil des migrants dans les bibliothèques. Donc ce sont ces deux axes que je souhaiterais développer lors de cette intervention. Donc tout d'abord, comment les bibliothèques de lecture publique prennent en compte la question migratoire? Donc le premier constat, c'est que c'est un enjeu pour de nombreuses bibliothèques. Donc 26% de l'ensemble des bibliothèques municipales que j'ai interrogées ont répondu qu'elles accueillaient des publics migrants. Les BDP sont moins concernés, mais cette question quand même leur parlait. Tous les professionnels que j'ai rencontrés ont vraiment affirmé que les bibliothèques municipales avaient un rôle à jouer dans l'accueil des migrants et la grande majorité des bibliothèques municipales fréquentées par le public migrant développaient des actions spécifiques pour ce public. Et c'est un mémoire qui a suscité énormément d'intérêt. Lorsque j'ai mené mes enquêtes, j'ai eu énormément de retours avec des réactions très positives. Cette question nous intéresse, pouvez-vous nous envoyer votre mémoire? Donc toutes ces réactions ont montré vraiment que pour les professionnels des bibliothèques, c'est une question importante. Et la fréquentation de cette salle aujourd'hui le montre également. Cette légitimité est en fait liée au rôle de la bibliothèque. Donc la bibliothèque doit répondre aux besoins de son territoire. Donc si le territoire de la bibliothèque est peuplé par des migrants, il est normal de penser des actions pour pouvoir les accueillir correctement. Et c'est également en lien avec le rôle civique, social et éducatif des bibliothèques. Donc toutefois, même si donc il y a une affirmation de principe, les bibliothèques en fait ne s'impliquent pas de la même manière. J'ai remarqué grâce à cette étude que l'accent était surtout mis sur les collections. Donc les bibliothèques municipales proposaient à 63% des bibliothèques municipales qui ont répondu à mon mémoire proposaient des collections spécifiques et seulement 48% des services spécifiques. Et dans les collections, ce sont surtout les fonds FLE et les fonds pour apprendre donc le français qui sont prédominants. En 2001, Hélène Bouquin, lors de son mémoire de conservateur à Annecy, avait vraiment souligné le fait que les fonds en langue d'immigration étaient très peu développés. Elle refait ce constat en 2003 et en fait, j'ai fait le même constat lors de mon enquête. Concernant l'offre de services de médiation, les bibliothèques font majoritairement surtout des mises à disposition d'espaces et également reçoivent également des groupes pour des visites, parfois en proposant le même type de visite que ce qu'elles proposent pour d'autres groupes. L'offre de services est souvent assez peu ambitieuse. Toutefois, il y a quand même des bibliothèques qui sont plus innovantes, pas seulement en Île-de-France. Je peux par exemple parler de la médiathèque de Béziers qui est associée avec une plateforme d'accueil des élèves allophones et qui organise un festival de cinéma pour ses élèves à la cérémonie du MAM d'or, parce que c'est la médiathèque André Malraux. Voilà. Les actions sont donc tournées principalement vers l'apprentissage du français. 64% des services proposés concernent l'apprentissage du français, 11% des services favorisant le dialogue interculturel. Et la réflexion sur la médiation est souvent peu aboutie, c'est vraiment au cas par cas. Voilà. Et ça dépend donc de chaque collègue qui fait du service public. Pourquoi donc ces disparités, me demanderez-vous ? Il y a vraiment une grosse dimension politique, donc on l'a déjà dit à diverses reprises lors de cette journée d'études. Il faut vraiment qu'il y ait une politique globale de l'établissement pour qu'il y ait une réflexion d'ensemble qui soit menée pour penser l'accueil des migrants. Ça demande des moyens financiers, mais il y a des possibilités qui sont offertes aux bibliothèques pour disposer de ces moyens. Donc, par exemple, Bobigny et Montreuil ont bénéficié des subventions de l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale. Il y a également des craintes et des réticences de la part de certains professionnels. Le refus de cibler. Nous voulons servir de manière égale tout notre public. Finalement, le fait de cibler telle ou telle communauté de migrants, n'est-ce pas renforcer le communautarisme ? N'est-ce pas renforcer les discriminations ? Mais en fait, ces arguments, même s'ils ne tiennent pas si on les analyse, puisque en droit, on peut traiter de manière différenciée des situations différentes. Donc, on peut développer des services spécifiques pour un public spécifique. Et de même, ne pas travailler avec nier les différences de son territoire, les spécificités de certaines communautés, c'est peut-être également ne pas les reconnaître dans la bibliothèque. Et c'est important de faire venir toutes les personnes dans la bibliothèque, puisque la bibliothèque est un lieu également de rencontre, d'échange, et qui permettra justement de faire découvrir d'autres choses aux personnes des différentes communautés. En fait, finalement, pour éviter l'écueil de la folklorisation et de l'indigénisation, pour éviter de ne voir en l'autre que l'autre, il est nécessaire de bien connaître ses publics, et c'est ce que je vais aborder maintenant. Donc maintenant, pour répondre à la question comment est-ce qu'on peut mieux accueillir le public migrant, donc la première étape, vraiment, c'est se demander quels sont ces publics. Puisqu'en fait, finalement, on a pu le voir au fil de cette journée, il n'y a pas un public migrant. Il est nécessaire de s'extraire de ses propres représentations et de la tendance à l'homogénéisation sociale et intellectuelle du public migrant. Il y a une phrase de Smaïn Lachar qui est, que je trouve assez forte à ce sujet. Si on regarde de haut et de loin les immigrés, il ne fait pas de doute qu'ils constituent une seule et même population. Autrement dit, tous les immigrés non seulement se ressemblent, mais arrivent toujours sur notre sol en même temps, par terre, en bateau, avec des intentions identiques, fuir la misère qui ravage leur pays. Parfois, au cours de mes entretiens, j'ai pu constater que souvent, il y avait une connotation misérabiliste liée avec le terme migrant, alors que finalement, la situation est tout autre. Il y a une grande diversité du public migrant et qu'on a constaté une hausse des niveaux de formation des primo-arrivants. En 2010, 43% des réfugiés ont au moins suivi des études secondaires. Il y a une enquête récente du Secours catholique sur les migrants de Calais qui date de 2015 qui montre qu'une partie importante des exilés de ce territoire est issue des classes favorisées des pays de départ. Ils ne sont pas globalement les déshérités ou les damnés de la terre, loi s'en faut. Donc en fait, on a une diversité donc, des profils et des parcours, et c'est très important puisque ça va entraîner des besoins très différents et des rapports à la bibliothèque très distants. Voilà, donc concernant la diversité des parcours migratoires, donc il y a une diversité d'origine, une diversité de raisons du départ. Donc le premier facteur qui fait qu'aujourd'hui on quitte son pays pour aller en France, c'est les regroupements familiaux. La deuxième raison de migration, c'est les études. La troisième, l'immigration humanitaire. Et la quatrième, l'immigration économique. Dans les migrants, il y a une grande variété des profils socio-économiques et les degrés de précarité sont également très différents. Donc certains migrants, lorsqu'ils arrivent en France, sont inclus dans un réseau de sociabilité et d'autres pas. Et également, les besoins qu'a le migrant va dépendre de son étape dans le parcours migratoire. Lorsque le migrant est en transit, c'était le cas par exemple des Afghans qui fréquentaient en masse la bibliothèque municipale de Calais, ils vont pas avoir les mêmes besoins que d'autres migrants qui vont souhaiter s'installer sur le territoire. Donc certains Afghans qui aujourd'hui fréquentent la BPI ont de nouvelles demandes puisqu'auparavant ils souhaitaient partir de France et maintenant ils ont vraiment envie d'enclencher un processus d'intégration pour s'installer en France définitivement. Donc ils ont donc des requêtes complètement différentes. Et c'est la même chose pour les rapports aux Français à l'écrit. Lorsqu'on arrive, la plupart des migrants, pas les réfugiés, mais les migrants qui sont concernés par le droit des étrangers, pas par le droit d'asile, la plupart donc sont signataires du contrat d'accueil et d'intégration. Et en 2009, 63% de ces signataires maîtrisent le français. Et 49% des immigrés ont des difficultés avec l'écrit et expérimentent le choc des papiers. Donc immigrés, vous voyez, je distingue les migrants qui arrivent, donc qui signent le contrat d'accueil et d'intégration, et les immigrés qui peuvent être là depuis très longtemps ou pas, qui sont. Donc c'est pour ça qu'on a une différence de chiffres. Donc 49% de toutes les personnes qui résident en France qui sont nées dans un autre pays ont des difficultés avec l'écrit, expérimentent le choc des papiers, pour reprendre une définition de Gérard Noiriel, et ça entraîne une distance avec la bibliothèque. Voilà. Donc c'est important en fait d'avoir tout cela en tête pour pouvoir avoir réfléchir à la manière dont on peut traiter ces différents publics, puisqu'en fait il s'agit bien de publics migrants au pluriel. Donc on va donc cibler les besoins de certaines catégories. Certains de ces besoins peuvent rencontrer ceux d'autres publics. Moi, dans mon mémoire, j'ai proposé une typologie de besoins. Donc il y a certains migrants qui ont besoin que la bibliothèque facilite leur intégration en France. Il y a d'autres migrants qui se sentent très éloignés de la bibliothèque et qui ne vont pas à la bibliothèque, donc il est nécessaire de rapprocher la bibliothèque de ces migrants. Et il y a également une troisième catégorie, les migrants qui fréquentent avec assiduité la bibliothèque. Donc j'ai repris l'expression d'habitué, qui avait été créée par un sociologue à la BPI. Alors, tout d'abord, premier axe d'action, faciliter l'intégration. Donc, faciliter l'intégration, cela peut tout d'abord passer aider les migrants dans leur apprentissage du français. Donc, c'est vraiment un enjeu important pour les migrants. C'est un facteur majeur d'intégration sociale, mais c'est également une obligation légale. Dans toutes les étapes juridiques que les migrants doivent passer, il y a souvent un seuil linguistique qui est exigé. Lorsqu'ils signent ce fameux contrat d'accueil et d'intégration, on leur fait passer un test de français et si le niveau de français n'est pas jugé suffisant, ils doivent suivre des formations en français. Et la bibliothèque donc, a des ressources pour les accompagner dans cet apprentissage. On a développé plusieurs pistes lors de la table ronde précédente. On a très brièvement parlé aussi des espaces d'auto-formation. Donc, l'espace d'auto-formation de la BPI est très utile pour aider donc, les migrants à apprendre le français. Mais attention, nous ne sommes pas dans une autodidaxie traditionnelle. Il est nécessaire qu'il y ait un médiateur, comme Anis Camus l'a étudié. Lorsque la personne est obligée par les contraintes de la vie de faire de l'auto-formation, d'apprendre, elle va avoir besoin de quelqu'un pour l'aider dans cette démarche. Alors, ce n'est pas le cas pour d'autres types d'auto-formation où justement les personnes n'ont pas envie qu'il y ait un médiateur entre eux et leur apprentissage. On peut également développer des activités autour du langage. Faciliter l'intégration, c'est également favoriser une meilleure connaissance du système français et de la culture française. L'autre axe d'action, donc, c'est rapprocher la bibliothèque des immigrés qui en sont éloignés. Certains migrants ont un sentiment d'illégitimité, une impression d'étrangeté et un manque de confiance. Donc c'est pour cette raison qu'il est important également de dessiner une bibliothèque un peu plus à leur image. Donc l'espace télévision du monde de la BPI, par exemple, leur permet de pouvoir regarder un programme télévisé de leur pays d'origine. Et il est également important d'adopter une démarche active vers les migrants, avec des postures d'accueil spécifiques, en mettant en œuvre aussi des stratégies de communication particulières. Donc on a vu donc le cas de Pleine Commune, par exemple. On peut également penser à des animations qui peuvent permettre de favoriser le dialogue interculturel. Par exemple, la bibliothèque municipale de Vaux-en-Velin met en place des lectures multilingues. Donc c'est un acteur qui, une fois par semaine, va animer des lectures dans différentes langues, de récits du pays d'origine de chacun des participants. Et à la fin de l'année, il y a une grande représentation avec les lectures par les participants de tous ces récits. Ça a énormément de succès. Ça s'est situé en plus dans plusieurs quartiers de Vaux-en-Velin, dans le quartier du Mas de Taureau, qui est un quartier extrêmement populaire. Donc là, je vous ai mis on a déjà vu donc les. Pardon. donc là, vous avez le guide multilingue de la bibliothèque de Bobigny. Donc la bibliothèque de Bobigny distribue des plaquettes présentant ses services dans plusieurs langues et les distribue sur le territoire, dans les lieux qui sont fréquentés par les différentes communautés de son territoire, donc dans les commerces. Dans les boulangeries, dans différents lieux du territoire pour vraiment se faire connaître hors les murs. Et je vous ai également mis une image de la plaquette de la manifestation organisée par Vaux-en-Velin en 2014. Dernier point, prendre en compte les habitués. Donc les bibliothèques sont parfois fréquentées en masse par des habitués étrangers ou migrants. Par exemple, les étudiants étrangers. Donc, moi, je travaille dans la bibliothèque universitaire de Paris 8 et on a beaucoup d'étudiants étrangers donc, qui ont des besoins spécifiques. Calais est un cas très particulier. Donc, lorsque j'ai mené mon étude, la bibliothèque municipale de Calais en 2014 était confrontée en fait à un flux massif de migrants, puisqu'il n'y avait aucun lieu sur le territoire qui permettait aux migrants de se laver, d'aller aux toilettes, de brancher leur portable, d'assurer leurs besoins primaires. Le seul lieu qui était ouvert, c'était la bibliothèque. Donc, ça a été assez complexe, puisque ils étaient extrêmement nombreux, et il fallait donc permettre à ces personnes de venir à la bibliothèque, puisque la bibliothèque est ouverte à tous, mais en même temps permettre la coexistence pacifique de tous ces usages, et apprendre et faire en sorte que tout le monde respecte les mêmes règles. Donc, la conservatrice de la bibliothèque a dû développer des stratégies de communication particulières en mettant des pictogrammes dans les toilettes, dans les différents lieux, pour expliquer comment est-ce qu'on pouvait se servir de la bibliothèque. Les toilettes, ce n'était pas un lieu où on pouvait se laver devant tout le monde. Enfin, c'est une situation extrêmement, vraiment très extrême, et qui aujourd'hui en fait est passé, puisqu'il y a d'autres offres de services qui ont été proposées sur le territoire pour que les migrants puissent disposer d'endroits où pour se laver et satisfaire leurs besoins vraiment primaires. Une autre situation un peu particulière, mais bien moins extrême, c'est le cas de la bibliothèque publique d'information. Donc, en 2009, fin 2009, la bibliothèque publique d'information a fait face à un flux de nouveaux migrants. Donc, c'était juste après la fermeture de la première jungle de Calais. Et les bibliothécaires, en fait, éprouvaient de la frustration, parce que dans cette bibliothèque, il y a énormément de ressources qui peuvent aider les migrants pour apprendre leur français, pour accéder à leurs droits. Et en fait, ne parlant pas la langue, les bibliothécaires ne pouvaient pas faire leur travail de médiation. Les migrants venaient principalement parce que pour utiliser Internet et pour rester dans un endroit chauffé et abrité. Donc, une réflexion a été menée la BPI a décidé de nouer un partenariat avec France Terre d'Asile d'abord, une enquête a été menée par France Terre d'Asile pour cerner donc les besoins de ce public particulier, et ensuite donc une médiation a été créée pour qu'un médiateur de France Terre d'Asile puisse répondre aux questions juridiques très précises des migrants, mais également pour qu'il puisse orienter vers les différents services de la bibliothèque, et le bilan a été très positif. Donc, j'ai bien insisté sur la nécessité de bien cibler ce qu'était le public migrant, les publics migrants de son territoire, mais cette identification peut être assez compliquée, puisqu'on a une évolution constante. Les instruments d'analyse dont nous disposons sont perfectibles. Les bibliothèques du Queens utilisent des statistiques ethniques. Nous ne pouvons pas le faire en France, parce que c'est très très difficilement conciliable avec le modèle républicain français. Dominique Stiper, par exemple, est très critique par rapport à l'utilisation de ces statistiques ethniques qui peuvent enfermer les personnes et nuire en fait au modèle d'intégration républicaine. Mais toutefois, il y a des pistes pour mieux connaître les publics migrants. Donc, on a parlé des partenariats avec les associations, avec les structures de son territoire. Certaines bibliothèques mènent des enquêtes de public. Le service études et recherches de la BPI, par exemple, développe ces enquêtes. Et la bibliothèque municipale de Bobigny, elle, a décidé de jouer un petit peu avec la règle et d'inscrire la nationalité de chaque personne s'inscrivant dans la bibliothèque. C'était c'est pas unique, c'est la nationalité.
Oui, mais en fait, la CNIL considère que la CNIL en fait considère qu'on n'a pas le droit de demander la nationalité, l'orientation sexuelle, politique d'une personne, sauf exception. Sauf exception, si la nationalité est une donnée objective, mais la CNIL. Là, voilà, vous avez fait contre la CNIL. Donc, maintenant que nous avons donc réfléchi à ce que pouvaient être les besoins des migrants et comment nous, bibliothécaires, nous pouvions y répondre, je vous propose donc plusieurs pistes de réflexion pour pouvoir construire donc une politique globale pour accueillir les migrants. Donc, tout d'abord, comment construire une politique documentaire adaptée? Donc, il y a plusieurs axes. Donc, on peut développer un fonds pour apprendre le français. Donc, pour ce faire, il est nécessaire d'avoir une pluralité de ressources et de proposer des outils qui permettent d'apprendre le français à partir d'une variété de langues ressources. Donc, par exemple, à Bobigny, en 2012, il y avait 314 méthodes générales, 13 méthodes pour anglophones, 15 méthodes pour arabophones, 24 méthodes pour sinophones, 37 méthodes pour tamoulophones. Donc, et des méthodes pour turcophones. En fait, c'est important aussi d'avoir une pluralité de ressources, car en fonction du profil de chaque personne, il va y avoir différents besoins. La BPI avait mené une enquête, donc c'est un stagiaire qui avait fait ça, pour proposer plusieurs parcours d'apprentissage. Donc vous pouvez trouver cette enquête, les résultats de cette enquête et ces différents parcours en ligne, c'est assez intéressant. On peut compléter. Il y a plusieurs types de méthodes qui existent. Par exemple, la méthode Assimil va plutôt être basée sur l'écoute, la lecture et la répétition de phrases simples, tandis que Rosetta Stone est plus une méthode qui repose sur l'immersion à partir de situations filmées. Et ces méthodes donc sont complémentaires et peuvent être utilisées l'une après l'autre selon le parcours d'apprentissage de la personne. C'est important également de proposer des ouvrages qui peuvent être lus facilement. Par exemple, les grands classiques abrégés d'Hachette, des dictionnaires visuels. La difficulté, c'est que parfois, les livres sont un peu trop enfantins. On peut s'inspirer de l'initiative menée par les bibliothèques publiques de Montréal. Ces bibliothèques proposent une collection pour tous, avec donc plusieurs titres pouvant être lus facilement en français. Une formatrice FLE que j'ai rencontrée lors de ce mémoire m'a également conseillé d'aller voir les travaux du collectif belge Alpha, puisque ce collectif en fait crée des ressources spécifiques pour permettre aux personnes apprenant le français de lire en français facile sans que les textes soient trop enfantins. Les films français sous-titrés en français sont également une bonne ressource, et je vous ai parlé déjà des espaces d'auto-formation. Et pour sortir un peu des exemples franciliens, je citerai l'exemple du... on est toujours en Île-de-France, on est à Melun. pour sortir de Paris, donc le laboratoire de langue de la médiathèque Astrolab. Un autre axe donc de la politique documentaire pour favoriser l'intégration, c'est la proposition de ressources qui permettent de favoriser la connaissance des migrants du système français, de leurs droits, de se familiariser avec les valeurs et l'histoire de la France, des ouvrages sur la vie pratique, des ouvrages sur l'éducation des enfants. Montréal a créé une collection spécifique qui s'appelle Nouveaux Arrivants et qui en fait aborde des questions très simples telles que la santé, les questions d'immigration, les permis, le logement et les lois. Et en Hollande, donc je n'ai pas bien prononcé le nom de la bibliothèque, la Openbaar Bibliothèque van Amsterdam propose donc des collections de livres en langue étrangère sur des sujets pratiques pour les femmes migrantes ou d'origine étrangère. Donc
Je vous ai parlé du dialogue interculturel, donc il peut passer par, par plusieurs axes. Donc la première, c'est la politique documentaire. Donc il est important de proposer des ressources audio et audiovisuelles issues des pays d'origine des personnes migrantes fréquentant la bibliothèque ou habitant sur le territoire de la bibliothèque. Par exemple, à Bobigny, une vidéothèque a été ouverte en 2008 avec des ressources du monde entier. Et Michel Dumex, qui est bibliothécaire à Bobigny, a constaté que les usagers étaient extrêmement heureux de voir ainsi leur culture reconnue au sein de la bibliothèque. Et pouvaient également découvrir des films de leur propre pays qu'ils ne connaissaient pas. Développer des fonds en langue d'immigration est important, donc nous l'avons redit et redit lors de cette journée. Donc plusieurs bibliothèques en proposent déjà, la bibliothèque Melville à Paris, Roubaix, Châtillon, Bobigny, Pleine Commune et d'autres. Et donc c'est important donc, de se centrer sur les langues les plus parlées sur le territoire et d'essayer de construire une politique, que ce fait la politique documentaire soit exactement la même que la politique documentaire qui permette de construire les fonds en français. C'est important d'avoir de la diversité, de proposer par exemple des romans français en langue étrangère. Mais toutefois donc on l'a vu, il y a des difficultés. On fait face à des contraintes puisque l'offre éditoriale n'est pas toujours très développée selon les langues. Par exemple, à Bobigny, l'acquisition des livres en tamoul se fait au poids dans une librairie près de la gare du Nord. Il y a des difficultés en matière de catalogage également. Mais des initiatives de co-création des collections peuvent être bénéfiques. Par exemple, en Suisse, la bibliothèque Globe Livre, donc c'est 27 000 ouvrages dans 270 langues, donc au pays et également aux Pays-Bas, dans les bibliothèques du Pays-Bas, font de la co-création de fonds avec les habitants du territoire. Et donc c'est très bénéfique et ça marche bien chez eux. Certaines bibliothèques municipales françaises ont également des partenariats avec des bibliothèques étrangères. Par exemple, Bobigny et Lyon ont un partenariat avec Shanghai. Et ici, les Moulineaux ont un partenariat avec Dongxiang. Mais comme c'est le cas pour tous les dons, il est nécessaire de faire un important tri dans ces documents. Par exemple, donc à Bobigny, il y avait énormément de documents politiques qui avaient été donc donnés à la bibliothèque et qui n'étaient pas d'une grande neutralité. Autre point concernant la politique documentaire, ce sont les ressources documentaires sur des questions en rapport avec l'immigration et son histoire. Donc plusieurs bibliothécaires interrogés ont vraiment souligné le fait qu'il y avait des demandes dans ce sens. Concernant les animations, donc il est important de mettre le dialogue interculturel à l'honneur pour accueillir certains types de migrants. Donc les actions peuvent être multiformes. Par exemple, la programmation pour les nouveaux Américains de la bibliothèque du Queen's est extrêmement variée. Ça va du théâtre à l'exposition, au débat scientifique. La bibliothèque municipale de Montreuil, par exemple, fait une politique d'animation pour mettre à l'honneur le dialogue interculturel assez développé. Par exemple, pour commémorer la Première Guerre mondiale, il y a eu un programme qui a été construit en mémoire en fait, des tirailleurs sénégalais maliens, parce que je pense que vous le savez peut-être, à Montreuil, il y a une importante communauté malienne. Voilà, donc du coup, plusieurs manifestations ont été développées autour de ce thème. Il y a, en 2014, il y avait également eu des manifestations autour du tamoul. Donc il y avait eu un universitaire qui avait exposé donc ce qu'était la culture tamoul, mais il y avait eu également des danses tamoul qui avaient été montrées au public de la bibliothèque. L'agenda donc de ces animations peut être lié à des grandes fêtes communautaires. Ah, je n'ai que 5 minutes. Ok. Oui, oui, pas de souci. Ok. Donc, pour l'agenda, on peut choisir donc de mettre à l'honneur certaines fêtes des communautés. Donc, on a déjà parlé d'Aubervilliers et du Nouvel An chinois. Ça peut également être l'occasion d'inaugurer des actions spécifiques menées par la bibliothèque, par exemple l'inauguration d'un fonds. Et donc, ça doit s'inscrire dans le cycle d'animation de la bibliothèque. Le double objectif est à la fois de faire connaître les cultures, mais également d'inciter les personnes qui en sont issues à venir à la bibliothèque. Pour faciliter l'installation des nouveaux arrivants, on peut également proposer des services spécifiques. Par exemple, dans les bibliothèques du Queens, il y a des ateliers d'acquisition de compétences pour se débrouiller. Par exemple, il y a un atelier qui a été fait sur les violences faites aux femmes, et cet atelier a été fait en espagnol. Il y a eu également un atelier sur la sécurité sur Internet en mandarin. Donc, on a déjà parlé aussi de la nécessité de s'associer à des structures pour pouvoir accompagner de manière individualisée certains publics. Donc, c'est ce qu'a fait la BPI et France Terre d'Asile. Et Toronto fait également la même chose avec une permanence de travailleurs sociaux. Concernant les services autour de la langue, donc on a longuement parlé des ateliers de conversation. Certaines bibliothèques construisent donc des animations spécifiques en partenariat avec des formateurs. La bibliothèque municipale de Vénissieux a par exemple construit une valise d'activités avec une animatrice FLE, et ça leur permet donc de valoriser à la fois les ressources de la bibliothèque et également d'aider les migrants dans leur apprentissage du français. Des actions culturelles peuvent également permettre d'apprendre le français. Donc à Noisy-le-Sec, il y avait eu des animations autour de l'écriture, de la danse et de la nourriture pour des femmes allophones, et ça a également très bien marché. La bibliothèque municipale de Noisy-le-Sec fait des ateliers multimédia également pour aider donc les personnes à la fois à s'approprier les ressources informatiques tout en leur faisant des activités sur le français. Donc vous voyez, on peut être extrêmement imaginatif, il y a beaucoup de possibilités qui nous sont offertes pour pouvoir aider les migrants dans leur apprentissage du français. Ensuite, donc, on a déjà parlé des stratégies communication à destination du public migrant. Donc, il est parfois intéressant de s'associer avec des associations communautaires. C'est ce que fait la bibliothèque de Walker Graham aux États-Unis, en s'associant avec des personnels très impliqués dans des associations latino-américaines. Et donc, cette association leur permet de se faire connaître à travers ces personnes. Donc là, je voulais vous montrer. Là, c'est très rapidement. Donc, c'est la bibliothèque d'Helsinki qui fait des petites cartes postales avec des personnes issues de différentes communautés. Et à chaque fois, la présentation de la bibliothèque dans la langue parlée par la personne qui est représentée en photo donc sur la carte postale. Donc voilà, vous voyez, le panel est large, vous avez beaucoup de possibilités pour pouvoir mieux accueillir le public migrant dans votre bibliothèque actuellement. Il est essentiel, bien sûr, pour ce faire, de ne pas développer ces actions tout seul, hein, mais de nouer et d'approfondir des partenariats qui pourront à la fois vous permettre de connaître les migrants, de toucher les migrants éloignés des bibliothèques, et de bénéficier de nouvelles compétences. Voilà. Et c'est également un moyen de rationaliser les ressources utilisées pour accueillir les migrants, et dans un contexte de restrictions budgétaires, c'est un point important. Enfin, il est important. Je me réjouis de l'organisation de cette journée d'études, puisque pour bien accueillir le public migrant, il est nécessaire que nous enrichissions nos pratiques professionnelles. Ces actions ont des incidences sur les membres de l'équipe. C'est des actions valorisantes, mais qui peuvent parfois être difficiles et qui nécessitent de nouvelles compétences. Même si l'atout de la maîtrise des langues étrangères est en plus, et pas forcément obligatoire de parler la langue de la personne pour bien l'accueillir, mais c'est important de... Par contre, que les personnes aient une curiosité pour la découverte d'autres cultures et également des clés pour pouvoir construire des fonds documentaires en langue d'immigration. Donc, il y a une formation à Mediadis qui est proposée cette année sur ce point. L'offre de formation est encore balbutiante, mais il y a de plus en plus d'initiatives qui sont en train d'apparaître. Et c'est très important que nous favorisions les échanges pour pouvoir enrichir nos pratiques. Et c'est encore merci donc aux organisateurs de cette journée. Cela nous a permis de réfléchir tous ensemble à toutes ces stratégies et tous les outils possibles pour mieux accueillir les migrants. Donc merci beaucoup. Et je voudrais aussi remercier les deux traductrices en langue des signes, hein, parce que ça a dû être extrêmement fatigant et c'est vraiment super que cette journée soit traduite en langue des signes. Donc merci beaucoup. Si vous voulez me contacter, je vous laisse mon mail, voilà, n'hésitez pas. Et je finirai avec une citation de Marguerite Yourcenar. Le véritable lieu de naissance et celui où on l'a porté un coup d'œil intelligent sur soi-même et première patrie ont été les livres. Voilà. Donc le lien entre culture et immigration est bien présent.
Voilà. Merci Lola. Vous avez des réactions ou des questions dans la salle pour Lola, tant qu'elle est avec nous, sur ce qu'elle a pu évoquer comme type de pratique.
Bonjour. Eh bien, si on a quelques minutes, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus sur la co-création de collections spécifiques dont vous nous avez un petit peu parlé, avec l'exemple de Globe Livre en Suisse. Voilà, juste avoir une idée de... En fait, est-ce que ce sont des habitants, des migrants qui font des dons de livres dans leur langue, enfin, pas bien compris.
Alors, en fait, ce sont des habitants donc, du territoire et tous les semaines, il y a un petit atelier où les bibliothèques, durant lequel les bibliothèques, les bibliothécaires et les habitants issus de différentes communautés se rencontrent et qui permettent en fait aux usagers de faire des remarques, enfin de faire des suggestions d'acquisition. Ce sont des actions qui fonctionnent très bien. Mais après, voilà, c'est également, c'est un territoire également où il y a plutôt une migration universitaire avec des personnes ayant plutôt un background culturel assez important. Donc, c'est pas forcément possible avec tous les publics. Mais je pense que c'est quand même important de permettre aux usagers de laisser des suggestions d'achat pour les documents et ça peut nous nourrir dans nos acquisitions.
Ce que je réalise depuis ce matin, c'est que pas que depuis ce matin, puisque nous sommes de la bibliothèque Goutte d'Or dans le 18e et nous travaillons avec des migrants depuis peut-être deux bons mois maintenant. Ce que je constate énormément, et c'est la question que je me suis posée, c'est de se dire ce que nous avons à leur apprendre et à leur apporter, mais dans le sens inverse, eux aussi ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et on n'en parle jamais. On ne parle jamais de ce qu'ils peuvent nous apporter. Car intégrer les migrants, c'est les accepter, mais apprendre d'eux, ce n'est pas seulement de leur apprendre. Ce ne sont plus des enfants, la ville la connaît. Et ils sont passés par des moments bien difficiles que nous ne connaissons pas. Mais je crois que toutes ces personnes, quelles qu'elles soient, ont beaucoup de choses à nous apprendre et à nous apporter. Et je pense que c'est à travers ceci, justement, que nous pouvons réussir ensemble. Ce n'est pas de se dire, nous Français, nous avons quelque chose à donner, nous avons beaucoup de choses à donner, mais nous avons certainement énormément de choses à apprendre d'eux. Et ça, c'est à prendre en compte. Et je n'ai pas eu l'impression que ça a été pris en compte depuis ce matin. Voilà.
Je vous remercie pour votre remarque. Voilà. Donc, moi, j'ai dû écourter donc, ma présentation. Et justement, je voulais souligner que développer des actions pour accueillir les migrants, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant et toutes les personnes que j'ai rencontrées qui développent de telles initiatives m'ont vraiment souligné que c'était à la fois un apprentissage humain fabuleux et que c'était très valorisant puisqu'ils nous donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup en échange et ça permet également de réfléchir sur notre propre pratique professionnelle Et oui, vous avez raison, nous apprenons mutuellement et c'est très important, c'est un échange, oui, tout à fait.
Merci Lola, je crois qu'on peut conclure cette journée avec ce terme, celui de l'échange, parce que c'est effectivement ce qui est au cœur aussi de ce sujet.